Si on voit très bien, du coup, il y a beaucoup de lumière en ce moment. C'est bien, hein ? Du coup, on voit un peu moins la diapo, mais pas très grave. Le titre, c'est « Dansons la capucine », avec une image de buffet. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Que ferait Jésus à ma place ? Que ferait Jésus à ma place ? Parfois, dans des situations où je n'arrive pas à discerner quelle est la volonté de Dieu, je me demande « Que ferait Jésus ?» à ma place. Alors parfois cela me donne des idées et parfois ça ne m'avance pas à grand chose. Il faut dire aussi que Jésus n'était pas tout le temps doux et chaleureux. Il a aussi été dur, exigeant, sévère et même virulent face au mal, à l'injustice, face aux chefs religieux qui conduisaient le peuple dans l'égarement. Voilà les chefs qui conduisaient le peuple dans l'égarement, Jésus a été pas mal en colère après eux. Ma prédication de ce matin ne concerne pas ce thème, mais celui de la nourriture, comme l'image vous le montre. Alors, quel lien entre ce que je viens de dire et la nourriture ? C'est juste que je vous avoue que ces derniers temps, les repas fraternels me manquent. Non pas que ce soit les plats qui me manquent, mais c'est ce temps passé ensemble, ce temps convivial. Et je me suis posé la question plusieurs fois, qu'aurait fait Jésus s'il avait été empêché de partager des repas ? Dans les évangiles, une grande partie des enseignements de Jésus ont lieu autour d'un repas. En temps de Covid, y aurait-il eu une multiplication des pains ? Y aurait-il eu des repas de Pâques et l'institution de la scène ? Alors, je n'ai pas vraiment de réponse, hein, c'est juste une question que je me suis posée en voiture, comme ça. Dans tous les cas, ces questions partent d'une situation hypothétique. Au temps de Jésus, les choses étaient relativement différentes et les événements ont déjà eu lieu. Donc, on ne peut pas revenir sur le passé. Par ailleurs, lors d'un repas, qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui fait qu'un repas devient un bon moment et même un moment édifiant. Le texte qui fait l'objet de ma prédication ce matin répond en partie à cette question, qui est plus spirituelle que l'on ne pense. Mais avant de lire le passage, ou plutôt le verset en question, j'aimerais vous parler d'une chanson que vous connaissez certainement, « Dansons la capucine ». Cette chanson est considérée comme une comptine, une chanson enfantine. Nos enfants aiment bien écouter des comptines de temps en temps. Et certaines paroles de ces chansons nous paraissent très étranges, dont cette chanson-là. Généralement, on connaît surtout la première strophe de cette chanson. Dansons la capucine, y a pas de pain chez nous, y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Et même un cri de joie, hein, you! Ces paroles peuvent sembler énigmatiques à première vue, parce que la mélodie est gaie. Le cri de joie à la fin laisse entendre que la chanson est joyeuse. Mais qu'y a-t-il de joyeux dans cette chanson, dans cette situation ? Il n'y a pas de pain chez nous, il y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Voici les autres strophes. Il y a quatre strophes en tout. Deuxième strophe, dansons la capucine. Il n'y a pas de vin chez nous, il y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Alors une petite parenthèse, je trouve cela curieux que les deux premiers éléments essentiels sont le pain et le vin. Voilà, je ne sais pas quoi faire de cette remarque, mais c'est intéressant. Troisième strophe, dansons la capucine. Il n'y a pas de feu chez nous, il y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Et enfin, la dernière strophe nous éclaire sur tout le reste. Dansons la capucine, il y a du plaisir chez nous. On pleure chez la voisine. On rit toujours chez nous. Dans cette chanson, les enfants chantent avec joie qu'ils n'ont pas de pain chez eux, alors qu'il y en a chez la voisine. Ils sont dans la joie, car malgré la pauvreté, ils ont, eux, le plaisir et les rires, alors que chez la voisine, on pleure. Cette chanson a été publiée pour la première fois par Jean-Baptiste Clément en 1868. C'était une chanson révolutionnaire, parodique et satirique. Dans le contexte, la voisine mentionnée dans la chanson fait partie des riches qui exploitent les pauvres qui n'ont pas de pain. Cette chanson n'a rien d'inédit, car la Bible contient des paroles semblables et même plus profondes. Revenons à notre question de départ. Lors d'un repas, qu'est-ce qui est central ? Pour aborder cette question, je vous invite à lire un simple verset dans le livre des Proverbes, livre qui a été rédigé des siècles et des siècles avant la comptine, dansons la capucine. Juste un verset, Proverbe 15, verset 17. « Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé dans la maison de la haine. » Mieux vaut un plat de légumes où règne l'amour qu'un bœuf engraissé dans la maison de la haine. En lisant ce verset, je ne peux m'empêcher de penser aux familles. Aux familles, car c'est un lieu où les risques de division et de conflit sont présents. C'est aussi le lieu des moments de repas fréquents. Mais plus largement, ce verset ne parle pas uniquement des familles, il parle aussi des relations en général. Relations entre nous, dans l'Église, relations entre amis, entre voisins, entre collègues, etc. Ce verset nous livre un constat assez simple. On ne prend pas de plaisir à partager un repas dans une ambiance conflictuelle. Mais alors, que propose l'auteur ? Il me semble que cette petite phrase des Proverbes nous donne matière à réflexion. Le meilleur repas du monde peut devenir le pire si mon esprit n'est pas en paix. Et cela m'incite à prendre du recul par rapport au plaisir de la vie. Surtout en cette période de restriction où les lieux de détente, de loisirs, sont pour la plupart inaccessibles. Qu'est-ce qui me rend heureux ? Qu'est-ce qui me rend heureux ? Il me semble que dans notre société, et surtout à notre époque, nous mettons un accent sur la recherche du plaisir dans les choses matérielles. On cherche le plaisir dans la nourriture, on cherche le plaisir dans l'acquisition de biens matériels ou dans les loisirs. Et beaucoup de gens vivent, comme on dit, en apnée dans la semaine, en attendant le week-end ou les vacances, les moments où, enfin, ils pourront se faire plaisir. Voilà, on prend son souffle, on vit en apnée du lundi au vendredi et enfin, le samedi et dimanche, on vit. Parce qu'on peut se faire plaisir. L'auteur des Proverbes nous fait réfléchir à cette notion de plaisir. Si je passe mon week-end, mes vacances ou mon temps de loisir avec des gens que je ne supporte pas ou qui ne me supportent pas, est-ce toujours un plaisir ? À l'inverse, si je passe du temps avec des personnes que j'aime, quel que soit le moment de la semaine, quel que soit le lieu, que ce soit dans un cadre luxueux ou dans un cadre modeste, j'y prendrai du plaisir. Je serai en paix. Le plaisir de partager un repas ne dépend pas avant tout du prix que l'on y met, mais de l'amour qu'il y a dans les relations. Et je précise que l'auteur ne nous dit pas que le luxe est mauvais en soi. Il dit que la simplicité, là où règne l'amour, est meilleure que le luxe, là où l'on se déteste. La Bible ne condamne pas les biens matériels ou les loisirs, mais trop souvent, la recherche de cela, la recherche du plaisir terrestre, nous détourne du vrai bonheur. Car le bonheur ne se trouve pas dans les choses matérielles, il se trouve dans des relations animées par l'amour du prochain. Faut-il faire alors une sélection dans nos relations afin d'être entouré seulement de personnes avec qui l'on s'entend bien ? Et ainsi, serions-nous plus heureux ? Pas du tout, pas du tout. L'auteur des Proverbes nous invite à faire un travail en nous. La Bible nous demande d'aimer notre prochain, quel qu'il soit. Alors c'est vrai que l'on n'a pas d'affinité avec tout le monde, c'est normal. Nous ne sommes pas obligés de nous entendre avec tout le monde comme si chaque individu était notre meilleur ami. Mais toutes les relations demandent des efforts. Toutes les relations demandent des efforts. Je pense que l'auteur des Proverbes nous invite à faire ces efforts. Il me semble que ce verset nous invite à tout faire pour que les relations dans nos familles et dans notre entourage soient bonnes. Cela sera profitable pour tout le monde. Si nous voulons trouver le bonheur, pas la peine de dépenser de grosses sommes pour acheter de la viande de luxe, un plat de légumes peut suffire, mais il faut de l'amour. De l'amour. Cela a l'air simple et facile, dit comme ça, mais aimer n'est pas toujours évident. C'est facile d'aimer les gens aimables. Mais comment aimer les autres ? Comment aimer ceux qui nous agacent ? Parfois, il y a des gens, ils ouvrent à peine la bouche, on sait qu'ils vont nous agacer. Comment aimer ces personnes-là ? Et même ceux qui nous font du mal. Dans la Bible, aimer n'est pas seulement un sentiment. C'est surtout un verbe d'action. Aimer, ça se travaille. Il me semble que l'auteur des Proverbes nous donne une piste pour apprendre à aimer. Notre verset 17 est à lire avec le verset qui précède, le verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Et verset 17, mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé dans la maison de la haine. Dans un cas, il est préférable d'avoir peu avec la crainte de l'Éternel. Et dans l'autre cas, il est préférable d'avoir peu là où règne l'amour. Cette manière de dire sensiblement la même chose dans deux phrases à la suite est assez courante dans l'Ancien Testament. C'est un procédé littéraire oriental pour attirer notre attention. L'auteur veut nous faire comprendre qu'il y a un lien entre la crainte de l'Éternel et l'amour de notre prochain et le bonheur. Dans la Bible, la crainte de l'Éternel nous pousse à aimer notre prochain. L'amour pour l'autre est donc une conséquence de la crainte de l'Éternel. Mais qu'est-ce que la crainte de l'Éternel ? Cette manière de parler de Dieu peut sembler un peu troublante. La crainte de l'Éternel est une expression qui peut faire peur, et c'est le cas de le dire. Comme je viens de le relever, c'est une expression. Je ne pense pas que Dieu veuille nous terrifier. Il ne veut pas nous diriger par la peur. D'ailleurs, la peur s'oppose à la foi, à la confiance. Quand on a peur de quelqu'un, on ne lui fait pas confiance. Et quand on lui fait confiance, on n'a pas peur de lui. Avec Dieu, c'est la confiance. L'Éternel est un Dieu qui nous invite à la foi, non pas à avoir peur de lui comme s'il était le méchant ou lointain. La crainte de l'Éternel, dans la Bible, c'est respecter l'Éternel. Le respecter en tant que notre Créateur. C'est l'honorer, c'est chercher à vivre selon sa volonté. Autrement dit, craindre l'Éternel, c'est l'aimer comme il se doit. Je trouve cela significatif que dans notre passage des Proverbes, la crainte de l'Éternel, au verset 16, est mise en parallèle avec l'amour du prochain, au verset 17. Car finalement, ce sont les deux plus grands commandements de Dieu. Dans les évangiles, un professeur de la loi a demandé à Jésus : « Quel est le plus grand commandement de la loi ? » Et Jésus a répondu, dans Matthieu 22, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Et c'est intéressant que nos deux versets des Proverbes sont semblables. Le deuxième qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Autrement dit, la Torah. La loi et les prophètes désignaient toute la Torah, tout l'Ancien Testament. Ces versets interpellent chacun de nous dans notre rapport à Dieu et dans notre rapport aux autres. Ici, Dieu s'intéresse à ce que nous pouvons faire pour les autres et non ce que les autres peuvent faire pour nous. Je dis cela car dans les milieux chrétiens, il y a parfois cette tentation d'être exigeant envers son frère ou sa sœur dans la foi. On peut exiger, par exemple, plus de bienveillance. On peut exiger plus de générosité. On peut être tenté de se dire, lui, en tant que chrétien, il ne devrait pas agir ainsi. Ou lui, en tant que chrétien, il ne devrait plus agir ainsi. Mais les deux plus grands commandements ne concernent pas ce que les autres doivent faire. Ils concernent ce que Dieu m'invite, moi, à faire. L'aimer, aimer Dieu de tout cœur et aimer mon prochain, imparfait. Notre verset des Proverbes parle des relations et dans les relations, on a souvent des attentes. Mais je pense que l'exhortation principale des Proverbes concerne notre action à nous, à chacun de nous. Pour conclure, qu'est-ce que l'auteur des Proverbes souhaite nous enseigner ? Ce passage nous invite à réfléchir à l'objectif de notre vie. Il nous rappelle que la paix dans les relations procure plus de plaisir, plus de bonheur que les plaisirs matériels. Et si l'auteur nous parle de respecter Dieu, autrement dit aimer Dieu, c'est parce que notre bonheur dépend aussi et surtout de notre relation avec lui. L'amour et la paix dans nos relations humaines sont une source de joie. À plus forte raison, la paix et l'amour dans notre relation avec Dieu est la source de joie. Cette paix, elle est possible grâce au Christ qui a tout accompli. Durant toute sa vie, il a fait la volonté du Père, il a mérité l'amour du Père. C'est à travers Jésus que nous pouvons être en paix avec Dieu. Notre relation avec lui n'est plus entravée par notre imperfection, car Jésus est notre représentant auprès du Père. Nous sommes en paix avec lui. Nous sommes en paix. Amen. Je vous invite maintenant à la prière, et ensuite nous prendrons un chant, non pas « Dansons la capucine », mais « Toi qui disposes ». C'est un chant que l'on chante souvent avant les repas à table, en tout cas la première strophe. Mais ce chant ne parle pas seulement de la nourriture. Notre Père Céleste dispose de toutes choses et nous les donne chaque jour. À commencer par la paix avec lui. Prions ensemble. Notre Père, merci parce que tu nous apprends que la paix dans les relations est la vraie source du bonheur. Nous pouvons passer des vacances dans un lieu paradisiaque sur terre, si cela existe. Nous pouvons passer un bon moment au restaurant seulement si les relations autour de nous, avec notre entourage, sont paisibles. Un plat de viande peut devenir un plat qui n'est pas bon parce que nous sommes dans la tourmente. Mais la paix dans notre cœur, la paix dans notre relation avec toi, dans nos relations aux autres, nous offre vraiment ce plaisir, un plaisir qui n'est pas descriptible. Merci parce que nous sommes en paix avec toi. Et tu nous demandes de vivre en paix avec notre entourage et nous avons besoin de ta force pour cela. Nous avons besoin de ton amour, l'amour qui vient de toi et que nous avons à offrir à nos proches. Merci parce que tu nous offres toutes choses et c'est ce que nous voulons chanter maintenant. Amen.